Si quelqu'un dit que le libre arbitre de l'homme, mû et poussé par Dieu, ne coopère en rien lorsqu'il acquiesce à Dieu, qui le pousse et l'appelle à se disposer et préparer à obtenir la grâce de la justification, et qu'il ne peut refuser s'il le veut, mais que tel un être inanimé, il ne fait absolument rien et se comporte purement passivement, qu'il soit anathème. Décret du Concile de Trente, du 4 décembre 1563, sur le libre arbitre.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
La réforme protestante, initiée par Luther, puis poursuivie par des personnes comme Calvin et Zwingli, entre autres, a été un véritable choc pour le monde catholique dans la première moitié du XVIe siècle. Entre les années 1520 et les années 1540, on a l'impression que le monde catholique vacille. Les îles britanniques sont perdues, sauf l'Irlande. Les monarchies scandinaves basculent dans la réforme protestante. Une grande partie de l'Allemagne, à peu près les deux tiers, passe à la doctrine de Luther. Ainsi, tout le monde chrétien en Occident est bousculé par les thèses de Luther et des autres réformateurs. Comment répondre ? C'est un véritable défi qui attend l'Église catholique. Tout le monde parle de réforme. Il s'agit de réformer l'Église, de la rajeunir, de lui redonner un dynamisme spirituel et pastoral, parce qu'on lui reproche depuis déjà trop longtemps d'être justement une institution vieillissante et qui ne répond plus aux attentes des chrétiens de son temps. Qu'il y ait eu des réformes avant même la convocation d'un concile, c'est un fait. Des nouveaux ordres religieux sont apparus, que l'on songe aux Capucins en 1525 par Matteo di Baccio, et surtout des Jésuites en 1540 par Ignace de Loyola. On observe même, au sein de l'épiscopat, de vrais réformateurs qui essayent justement de moderniser, d'actualiser et de se rapprocher dans leur méthode pastorale du peuple chrétien, ainsi Matteo Ghiberti à Vérone. Au sommet de l'Église, on est tout à fait conscient qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Et d'ailleurs, en 1537, une commission de cardinaux présidée par le cardinal Contarini remet au pape Paul III un rapport qui propose la convocation d'un concile afin d'amender l'Église, pour reprendre l'expression du temps. Qui plus est, les princes catholiques, et en particulier le roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire Charles Quint, poussent l'Église à organiser un colloque réformateur. Lui-même avait, en 1541, organisé à Ratisbonne une rencontre entre protestants et catholiques, mais qui n'avait finalement abouti à rien. Et à la différence de François Ier, qui se méfie d'un colloque et d'un concile trop dominé par la papauté, l'empereur roi, lui, estime que c'est nécessaire. Mais attention, si on convoque un concile, il s'agit qu'il soit vraiment réformateur, qu'il soit vraiment à l'initiative de nouveautés. Car le dernier, qui s'est tenu en 1511-1512, le concile de la 35, a accouché, disons-le, d'une souris. C'est finalement donc le 22 mai 1542, que le pape Paul III fait savoir qu'il convoque à Trente, donc ville impériale, un concile qui prend ses débuts le 13 décembre 1545. Au début de cette réunion qui se veut œcuménique, à vrai dire, il y a finalement peu d'évêques. En effet, entre décembre 1545 et mars 1547, qui est la première session du concile, il n'y a seulement que 34 évêques. Ce qui évidemment provoque quelques sarcasmes. Et il est vrai que Calvin se plaît à se moquer de cette réunion qui, loin d'être œcuménique, est en fait un groupement d'évêques italiens. La deuxième session, qui a lieu entre mai 1551 et avril 1552, est plus importante. En effet, il y a 68 évêques qui, quoique majoritairement italiens, débattent sur l'avenir de l'Église. Mais c'est finalement au cours de la dernière session, celle de janvier 1562, décembre 1563, que véritablement le Concile prend toute son importance. On dénombre à ce moment-là 276 évêques et 17 abbés. Parmi ceux-ci, on compte 169 Italiens, 31 Espagnols, 27 Français, 8 Allemands, 4 Polonais, 4 Irlandais et 3 Portugais. La présidence des séances ne se fait pas par le pape. Aucun pape ne viendra à Trente pour présider les débats. Ce sont des légats pontificaux qui représenteront le souverain pontife. On peut essayer de répondre d'ailleurs peut-être à deux interrogations. Pourquoi Trente et pourquoi autant de temps? Trente est effectivement une ville de compromis. Organiser un concile à Rome aurait, si j'ose dire, trop papalisé la réunion des évêques. Et certains souverains, en particulier le souverain français, attaché au gallicanisme, ne veut pas justement que Rome marque trop de son empreinte. Trente est une ville finalement plus centrale, impériale, et qui agrée aussi à Charles Quint. Ensuite, on peut s'interroger sur les sessions. Trois, d'accord, mais vous avez remarqué qu'elles sont largement coupées par des temps de non-réunion. Il faut dire que le concile a été régulièrement interrompu. D'abord à cause d'une épidémie de peste, puis ensuite on a redouté une descente des Turcs vers Trente. Bref, et la réunion et le déroulement des sessions n'a pas été simple, d'où le fait que finalement il faut attendre décembre 1563 pour voir clore un concile qui avait commencé sa première session en décembre 1545. En tout cas, ce que l'on doit quand même retenir au moment où l'on peut faire le bilan de celui-ci, c'est que, indéniablement, à la différence du concile de Latran V, le concile de Trente a pris de véritables décisions. Pour essayer de mieux comprendre donc les décisions de Trente, je propose qu'on les découpe en deux séries. D'abord, les décisions disciplinaires. Le décret du 26 février 1562 crée l'index, qui établit une liste de livres proscrits. Ensuite, le décret du 15 juillet 1563. Celui-ci est capital pour la formation des prêtres, puisque c'est l'organisation des séminaires qui est décidée par ce décret. Séminaria, pépinières, seront donc chargés de former les prêtres et de les éduquer, de leur enseigner les écritures, l'histoire, les langues anciennes, bref, à les former, ce qu'il n'était jamais tout à fait le cas auparavant, où la formation des prêtres était liée aux écoles cathédrales ou à des curés plus anciens, par exemple. De même, on interdit l'ordination avant 25 ans. Le décret du 11 novembre 1563 est également disciplinaire. On demande la résidence des évêques et le non-cumul des bénéfices, avec des visites pastorales que les pasteurs devront faire dans leur diocèse. Ils veilleront également aux synodes provinciaux pour prendre le pouls, si j'ose dire, de leur clergé. La résidence des évêques peut aujourd'hui nous surprendre. On est habitué tout de même à ce que les évêques restent dans leur diocèse pour l'essentiel. Or, en ce milieu du XVIe siècle, il n'était pas évident que tous les évêques soient vraiment résidents. Il est donc nécessaire que le Concile rappelle l'obligation de résidence qui ne s'imposera d'ailleurs véritablement, tout comme la création des séminaires, que dans la première moitié du XVIIe siècle. Viennent ensuite toute une série de décisions doctrinales. Le pape est déclaré pontife et pasteur de l'Église universelle. C'est une manière de réaffirmer la centralité du pape à la tête de l'Église et de mettre finalement fin aux traditions qui s'étaient développées au XVe siècle et au début du XVIe siècle, qui se voulaient conciliaristes, c'est-à-dire est-ce que le concile ne pourrait pas être à côté du pontife, ou en tout cas avec lui, un élément de décision. Le concile de Trente fait du pape le cœur de l'Église. Ensuite, il y a la question qui est décidée le 8 avril 1546, sur quoi repose la foi ? La foi repose sur les Écritures, ce que évidemment affirment les protestants, et la tradition issue de la Bible, des apôtres et des pères de l'Église, selon, je cite, « le sens qu'a tenu et que tient notre Sainte Mère l'Église, elle à qui revient de juger du sens et de l'interprétation véritable des Saintes Écritures ». De même, on modifie quelque peu le canon biblique avec l'inclusion des livres de Tobie ou des Maccabées, ainsi que des épîtres de Jude et de Jacques. Le décret du 13 janvier 1547 précise le rôle de la grâce divine et du libre arbitre. Enfin, le décret du 11 octobre 1551 affirme la transsubstantiation lors de l'Eucharistie, c'est-à-dire du changement de l'eau et du vin en sang du Christ et du pain en corps du Christ. De plus, les sept sacrements sont à nouveau affirmés. Ainsi, ce concile a été capital, parce qu'il a indéniablement redonné un dynamisme à l'Église. Mais il ne faut pas se leurrer. Les décisions prises à Trente ne sont pas immédiatement appliquées. Et pour que véritablement les réformateurs de Trente essayent de trouver des solutions, eh bien, pour cela, il faudra attendre la moitié du XVIIe siècle pour que véritablement on puisse parler d'une Église tridentine, cette fois-ci bien affirmée.